Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. En guise de présentation de cet épisode, je vous propose une énigme. Qu'ont en commun le nystagmus, une orange et un pèlerin belge? Un indice. Le nystagmus est un important trouble de la vision avec lequel a su composer durant toute sa vie notre invité d'aujourd'hui, Daniel Gélina. Étonnamment, cela ne l'a pas empêché d'entreprendre le chemin de Compostelle. Au cours de notre entretien, Daniel nous raconte ce qui l'a inspiré à se lancer dans cette grande aventure malgré son handicap, une rencontre fortuite qui a changé son parcours de vie et une prise de conscience salutaire au pied d'une croix de fer. En deuxième partie d'épisode, Michel Cousinat-Baudet nous présente sa dernière chronique de la saison « Le corps en marche » en nous lançant un défi. Marcher au quotidien sans faire appel au GPS de son téléphone portable. Une autre belle façon de vivre l'instant présent, où que nous soyons et où que nous allions. Alors, bonne écoute et bonne réflexion. Alors, bonjour Daniel et merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour tenter de résoudre l'énigme « Qu'ont en commun le nystagmus, une orange et un pèlerin belge ». Alors, bonjour Daniel.
Bonjour Denis.
Alors, on commence avec le commencement, bien sûr. Le nystagmus, c'est quoi?
Le nystagmus, à la base, c'est un problème musculaire autour des yeux. Mm-hmm. Donc, ça fait en sorte qu'il y a comme un sautillement des yeux constant, soit latéral ou vertical. Il y a différentes sources de ça. Pour certains, c'est congénital. Pour d'autres, c'est plus comme un problème. Dans mon cas, c'est un problème à la naissance. Mm-hmm. C'était lié au fait qu'ils ont utilisé les forceps quand j'étais bébé à la naissance.
Ah oui.
Et apparemment, qu'il y a eu un problème. Mm-hmm. Ça a probablement étiré les nerfs. Mm-hmm. Ça fait que toute ma vie maintenant, mes yeux ont toujours bougé constamment, plusieurs fois par seconde. Mm-hmm. 10-15 mouvements par seconde minimum.
Alors, c'est quoi l'impact? C'est quoi les symptômes?
L'impact, c'est que ma vision est très basse. Je peux voir loin, mais je ne vois pas le détail. Mm-hmm. Mon œil, c'est une référence 20 sur 20 pour la vision parfaite. Mon œil gauche a une vision 20 sur 120. La façon de le voir, c'est que je vois à 20 pieds ce que vous voyez à 120 pieds.
Mmh,
c'est
oui.
À peu près ça. Puis mon œil droit voit 20 sur 700. Et mon œil droit, il ne peut même pas lire de façon générale.
Alors, vous pouvez marcher quand même, vous pouvez vous déplacer.
Mais avec des limites, s'il y a des objets qui peuvent m'empêcher, j'ai déjà fait des fouilles, comme on dit, j'ai déjà tombé.
Oui.
S'il y a quelque chose par terre et tout. Donc, je vois beaucoup de choses, mais il manque des détails. Mm-hmm. Je ne reconnais pas les gens, à moins qu'ils me parlent ou qu'ils soient très proches de
ah
moi.
Ah bon? Oui, oui. Alors, en ce moment, vous me voyez, vous me reconnaissez parce qu'on s'est déjà parlé.
Mm-hmm.
Vous me voyez un tout petit peu ou on est à un mètre à peu près, là?
Je vous vois bien, mais je te vois bien. Je ne pourrais pas dire la couleur de tes yeux, par exemple.
Oui, d'accord.
Mais je peux voir que tu souris, je peux voir que tu as l'air en pleine forme.
Bon, c'est déjà bien, ça.
Je vois quand même assez pour me déplacer. Je peux voir un écran d'ordinateur, je travaille en informatique,
mm-hmm.
Mais j'utilise beaucoup les zooms et les outils qui vont m'aider. Fait que ça ressemble à ça. Je peux pas conduire une auto. Je pourrais, en théorie, s'il n'y avait personne du tout sur les routes et si tout le monde se tasse pour me laisser. J'ai toujours rêvé ça un jour, peut-être.
Un jour, ben un dimanche matin. Ça pourrait être bon, ça pourrait être bon. Alors, la vue est difficile, en d'autres mots, là, dans le quotidien.
Je suis légalement aveugle, techniquement.
Légalement aveugle, oui, oui. Et vous avez quand même décidé d'entreprendre Compostelle, cette grande aventure. Alors là, il faut remonter un petit peu plus loin. En fait, votre Compostelle a été effectué en 2007, c'est ça?
Exactement.
Et quelques mois auparavant, comment ça s'est passé? Comment vous est venue l'idée?
quelques mois auparavant, j'avais jamais entendu parler de Compostelle. Mm-hmm. Et j'étais, on avait une tradition, on avait des déjeuners avec un groupe d'amis. On se voyait toutes les semaines, puis un de mes amis dans le groupe s'appelle Dale. Mm-hmm. Puis Dale parlait à un moment donné qu'il commençait à regarder pour cette expérience-là. Il dit Compostelle, Santiago de Compostela en Espagne. Mm-hmm. J'ai posé des questions, j'ai toujours aimé marcher quand il en parlait, c'est comme ça me semble intéressant. Mm-hmm. Ça m'a créé ce besoin-là. J'ai pas pris décision immédiatement, mais j'ai commencé à faire des recherches. À la maison après, et mm-hmm. ma femme m'a encouragé, elle sait que j'aime beaucoup marcher, elle dit tu devrais peut-être regarder pour ça, tu devrais peut-être voir l'expérience de ce que c'est. Fait que j'avais discuté avec Dale, mm-hmm. Avec d'autres, j'ai fait des tonnes de recherches, mais en même temps j'ai pris ma décision, comme ça a déclenché quelque chose que je savais pas qui
serait là. Peu, ouais. Là.
Exactement.
Et c'était combien de mois avant de partir?
À peu près 6 mois, je dirais.
Et vous êtes préparé, mais vous marchiez déjà, donc c'était un bon point de départ.
Je pensais que je marchais. mais quand j'ai pris ma décision, j'ai commencé à planifier sur quelques mois, plus d'entraînement, essayer de simuler un peu plus à quoi ça ressemblerait. Mm-hmm. Compostelle, c'est marcher, mais c'est clair, en faisant des recherches, c'est clair que c'est facile, mais complexe, dans le sens que marcher, c'est facile, mais marcher 6 heures par jour, il y a d'autres couches qu'on doit penser.
Oui.
En termes de soins personnels, en termes de qu'est-ce qu'on traîne avec nous, le poids, etc.
Et quel était votre objectif? Pourquoi vous vouliez le faire?
Mais ça, c'est une grande question vraiment intéressante et profonde, je dirais. C'était pas ça au départ, mais ce que c'est devenu, plus que j'y pensais, plus que je commençais à me dire, je veux faire ça parce que je veux me prouver à moi. Je vois directement à la fin à ma décision, c'est je veux me prouver à moi-même que je suis capable de faire ça.
Oui.
Je m'en irai dans un autre pays, je parle pas espagnol, je parle pas la langue, j'ai mon problème visuel comme on discutait, j'avais un excédent de poids assez important, beaucoup plus que maintenant, et j'avais des tonnes de limites.
Oui.
Et ce que je voulais essentiellement faire, c'est ce que c'est devenu, mais je suis capable. Essentiellement, je veux me démontrer à moi-même. Je veux faire ça. Je ne suis pas un sportif à cause de ma vision. Et c'est pas mon style. Mais j'ai dit ça, je suis techniquement capable.
Oui.
C'est juste que je vais le pousser pas mal au maximum. C'est la chose la plus difficile parmi les choses faciles.
Oui, oui. Vous aviez des limites, des barrières physiques et mentales.
Oui.
C'est ça?
Oui.
Oui.
Je vais avoir mes limites, je vais me perdre. Mm-hmm. Je vais avoir toutes les what if, toutes les choses qui peuvent arriver.
Tout à fait.
Et là, tous les scénarios. T'sais. Et essentiellement, j'ai décidé, je vais me faire confiance. J'ai commencé à remanier ça sous forme de je vais toujours trouver des solutions. Je vais me donner les outils, je vais me donner les ressources que j'ai besoin, mais je me fais confiance que je vais trouver.
Oui, oui. Alors, vous vous êtes dit, il n'y a rien qui va m'arrêter. C'est ça?
Exact.
Bon.
Et s'il y a quelque chose qui aurait pu m'arrêter, je vais trouver quelque chose qui va me permettre de continuer. Mm-hmm. Qui va me permettre de trouver une solution alternative. J'ai souvent vu ça comme il y a un mur de briques. Puis à un moment donné, c'est comme si le mur est devant moi, le problème est juste si je tiens absolument à passer à travers le mur. Mais si je prends le recul, je dis dans le fond, c'est juste un muret.
Oui.
Je vais faire le tour, je vais appeler quelqu'un, je vais trouver d'autres choses. Fait que ça m'a donné une façon différente de voir plein de choses.
Oui. Alors, vous avez fait allusion à la préparation tout à l'heure. Décrivez-nous un peu comment vous vous êtes préparé sur le Mont-Royal, je pense.
C'est la seule montagne, entre guillemets, qu'on voit. J'ai fait des marges. J'ai choisi en termes de trajectoire d'avoir des choses un peu plus, parce qu'il y a beaucoup d'élévation. Donc, effectivement, je voulais avoir d'autres choses que du plat. Compostelle commence beaucoup dans les Pyrénées. Il y a plusieurs routes de Compostelle, mais celle que j'avais choisie, que moi et Dale, on avait choisie, commence dans les Pyrénées. Donc, dès les premiers jours, c'est dans les montagnes. Mont-Royal est tout petit comparé à ça, mais en même temps, c'est un ordre de grandeur en termes d'élévation, en termes d'angle et tout.
Oui.
Donc, ce que j'ai fait, j'ai choisi des marches de 2 heures, 3 heures, 4 heures. J'ai fait des marches même de 6 heures. Je ne l'ai jamais fait, même dans Compostelle, je n'ai jamais marché 6 heures d'affilée, mais j'ai choisi des journées. Aujourd'hui, je vais marcher 6 heures. Mm-hmm. Donc, 2 heures, 2 heures, 2 heures avec des pauses et tout. Donc, j'ai stratégiquement choisi les endroits pour avoir de l'élévation, pour avoir certains niveaux de défi en termes de longueur et tout.
Oui.
Et aussi, l'autre composante, j'ai marché avec un sac, De plus en plus un sac qui ressemblait, mon vrai sac que j'ai fini mon sac à dos que j'avais acheté. Mm-hmm. Ce que j'avais trouvé, c'est l'idéal, c'est d'avoir un certain pourcentage de mon poids. J'avais un sac de 9 kilos, si je me rappelle bien. Mm-hmm. Donc, je mettais des trucs dedans, je l'avais pesé. Donc, ça, c'est mon sac de pratique. Oui. Pour simuler un peu ça, tu sais. Fait que quand je suis arrivé à Compostelle sur la route, ben, il y a plein de choses que j'avais déjà fait.
Mm-hmm, mm-hmm. Oui, c'est ce dont vous faisiez allusion tout à l'heure, le sac à dos. Exact. Est quand même très important.
Oui.
Oui. Est-ce qu'il y a une préparation mentale aussi?
J'ai pris des cours d'espagnol. Ben, des cours. J'avais pris des livres audio d'espagnol. Qui ont aidé, avec y a cette partie-là.
Oui.
Je ne suis pas devenu bilingue, mais j'ai appris le nécessaire que je croyais que j'aurais besoin. Donc, demander si je pouvais dormir ici, demander de l'eau, évidemment.
La base, en fait.
La base, exact. Ouais. Juste pour survivre.
T'sais. Oui, c'est ça. C'est ça.
Ce qui me semblait important. Oui. En même temps, il y a une espèce de préparation mentale qui est plus le mindset, l'état d'esprit. Essayer d'être zen un peu. T'sais, j'essaie de marcher le plus souvent. C'est un peu bizarre. Mon genre, j'ai tout le temps des livres audio, comme je parlais avec, quand je prenais l'espagnol. Mm-hmm. Mais j'ai fait plusieurs pratiques de marche où je me disais, aujourd'hui, j'écoute rien du tout. Je veux juste être à l'écoute de ce qui est autour.
Ah oui.
Et comment je l'ai commencé à le faire, puis je l'ai fait aussi beaucoup à Compostelle. Quand j'avais rien, quand j'avais pas d'audio ni rien, je décrivais ce que j'entendais ou ce que je voyais.
Ah, c'est intéressant.
Il y a un
ça.
Oiseau, là. Oui. Il y a ça. Là. Mmh. Ah, il y a tel groupe d'affaires. J'étais comme le narrateur de ce qui se passait. Et ça me mettait dans une zone pas mal intéressante, au lieu d'être dans ma bulle avec mes problèmes et tout.
Oui. Et c'est ce que vous faisiez aussi sur le Mont-Royal, un peu, là.
Oui, exactement.
Le repérage audio, sensoriel, si vous voulez.
C'est exactement ça. Ça faisait partie de ma pratique.
Oui. Bon, alors, vous êtes prêts? Et là, vous partez avec Dale. Racontez-nous un peu quand vous vous sentiez juste avant de partir et en arrivant.
C'est un peu fébrile parce que c'était complètement nouveau, complètement hors de ma zone de confort.
T'sais. Oui.
Avec un pied dans l'inconnu, c'est comme ça devrait être correct.
Mm-hmm.
Je me dis, bon, Dale est là, je ne suis pas pris tout seul.
C'est ça, oui.
Mais en même temps, on avait les dates, on avait le temps. J'ai 6 semaines pour marcher 800 kilomètres.
Oui.
C'est quand même... Ça se planifie, tu sais.
Oui.
Fait que mon état d'esprit était comme, j'ai bien honte, j'étais prêt à partir, j'avais pas de stress incroyable, mais j'étais en mode, let's do it.
Oui, 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 let's go.
Let's go. On était prêts, là, tu sais.
Oui.
Et Dale, j'en ai avec lui, puis Dale est très, très, très sage et très stable.
Oui.
Donc, lui, il avait pas un niveau d'excitation incroyable, donc ça faisait du bien de lui parler, de dire, tu sais, on est comme...
Un bon équilibre.
On était vraiment ça, là, oui, là, tu sais, oui, exactement.
Oui, oui, oui. Alors, vous arrivez... et la première journée, il s'est passé des petites choses intéressantes, là. Le premier matin, surtout.
Le premier matin, c'est fou, hein? C'est, comment je dirais ça? Ça commence dans les Pyrénées.
Mm-hmm.
Fait qu'en l'espace de 2 ou 3 heures, on est déjà dans de la montée. Puis le Mont-Royal est loin derrière en termes d'élévation,
tu sais. Mm-hmm.
Le soleil frappe, il fait chaud. C'était en juin, c'était en fait... 20 et 22 mai, je crois, dans ce coin-là.
Mm-hmm.
Le soleil frappe. Je croyais que j'étais prêt, mais 2 ou 3 heures plus tard, j'étais vraiment pas certain. La version simple, c'est après 3 heures de marche, j'étais dans une montagne dans les Pyrénées. Oui. Je voyais la plus belle vallée que j'ai vue de ma vie. C'est comme incroyable.
Mm-hmm.
Et en même temps, je me disais, j'avais la larme à l'œil, parce que je me disais comme, c'est une erreur. Envoyez-moi un hélicoptère.
Ouais.
Je m'en vais chez nous. J'ai surestimé. Je suis pas capable de faire ça. J'ai trop de poids. Ça n'a rien à voir avec ma vision, en fait.
Oui.
Ça a à voir avec ma santé, avec ma capacité.
Et les pieds.
Les
ampoules aux pieds.
J'avais pas encore d'ampoule à ce moment-là. Ils sont venus.
Hein?
Ils sont venus dans les jours qui ont suivi.
Bon.
Ça, c'est une autre histoire. Mais après 3 heures, c'est comme, tu sais, très cardio, puis j'essayais pas d'aller vite particulièrement, mais je trouvais ça difficile, j'avais un bâton de marche et tout. Mais en fait, ce qui est arrivé, ce qui est vraiment intéressant, c'est après à peu près 3 heures, tu sais. J'étais assis, là, tu sais, à table, je regardais. Dale était à 15 minutes de marche de moi, on suivait pas très loin, mais on n'était pas main dans la main nécessairement tout le temps, là, tu sais.
Il a pris de l'avance.
Il avait pris de l'avance un petit peu à ce moment-là.
Oui.
C'est correct. Tu sais, on avait convenu comme, regarde, c'est pas un problème,
Oui.
Ça, c'est correct. Mais j'étais assis par terre ou sur une roche, en fait. Puis je regardais la vallée, puis j'avais, écoute, les larmes aux yeux. Comme, renvoyez-moi chez nous, c'était une erreur. Puis c'est pas long qu'il y a un Belge qui arrive.
Et la deuxième composante de l'énigme,
exactement.
Le pèlerin belge.
Et ça, je vais m'en rappeler toute ma vie.
Oui.
Le Belge, je connais même pas son nom. Tu sais. Il passe et il y avait à peu près, peut-être mon âge à peu près à ce moment-là, dans la trentaine. Il arrête un peu, il s'assoit, tu sais, il dit, are you okay? Puis il commence à me parler anglais, français, finalement, je pense qu'on a parlé en français, si je me trompe pas. Puis on jase quelques minutes, puis tu sais, il s'assurait que j'étais correct, que j'étais pas blessé, ni rien. Puis après 5 ou 10 minutes, peut-être maximum, il dit, bon, si ça va, si tout est beau, je vais y aller, mais s'il y a de quoi, tu sais. Puis avant de partir, il fouille dans son sac, puis il me donne une orange. Qui est la troisième partie de l'énigme.
Voilà.
Le Belge, donc, il me donne ça, il dit, tu veux une orange? Merci. J'avais pas beaucoup à manger, j'avais pris des trucs à manger, mais c'était déjà parti. Il me donne l'orange, puis il dit, mais écoute, buen camino, bon voyage,
oui.
Ou bon chemin, en fait. Puis il s'en va, tu sais, c'est bon. Ce qui s'est passé au cours des quelques prochaines minutes, j'ai tranquillement commencé à éplucher l'orange. Et j'y voyais toujours la belle vallée devant moi, puis c'est comme ça me donnait le sucre de l'orange, j'imagine, ou l'acidité, je sais pas, me donnait une forme d'énergie, tu sais. Ça me donnait une motivation. Tu sais quoi, je suis là dans le milieu nulle part, il y a personne qui va venir me chercher. Et au bout du compte, ça revient à ça. Quand je disais, venez me chercher à voir un hélicoptère, la réalisation, comme, il y a personne qui va venir te prendre par la main puis t'amener chez toi.
C'est comme dans la vie. Hein.
C'est comme dans la vie, ouais. C'est la métaphore, tu sais, parfaite.
Ouais.
Et 10 minutes plus tard, j'avais mangé l'orange, j'avais les mains gluantes. Je me suis fié un peu, j'ai dit, oh, let's go, tu sais. Et je me lève, puis je marche. Puis une heure plus tard, maximum, j'avais rejoint Dale, puis on était correct. Puis là, j'avais repris un peu des forces, un peu de motivation, un peu d'énergie.
Oui.
Ce Belge-là, qui était, qu'est-ce que je trouve vraiment particulier, parce qu'en jasant, il m'avait demandé que ça fait combien de temps que tu marches. Une question standard sur Compostelle, ça fait combien de temps que tu marches, de où tu es parti.
Oui.
Genre, moi, ça fait 3 heures, c'est fou, je veux m'en aller. T'sais. J'y demande, à un moment donné, j'y demande comme toi, combien ça fait de temps. T'sais. Il lève les yeux, puis il dit, moi, ça fait 52 jours. Lui, il est parti de sa maison en Belgique. Il est juste directement, il marche. Moi, je m'en vais à Compostelle, c'est par là. Puis il est descendu, il a traversé l'Europe à la verticale quasiment. T'sais. Puis lui, il était rendu plus qu'à la moitié de son chemin. Là, t'sais. Puis ça a joué sur ma motivation de tout mettre en relativité.
Ben oui,
tu sais quoi, mon chialage sur 3 heures, c'est comme.
C'est rien, là.
Réveille-toi, là, tu sais.
Oui.
Fait que tout ça, plus l'orange, plus la discussion avec, j'étais soudainement plus dans ma bulle. Ça m'a donné une motivation qui était externe à ma tête. Là, m'a sorti de ma bulle.
Vous en avez parlé à Dale, j'imagine. Et c'était quoi sa réaction?
Non, lui, il disait sa réaction sur le 52 jours.
Non, en fait, sur l'orange, sur votre pause, le regain d'énergie. Là.
Même pas. Lui, il était déjà rendu. Il était parti à ce moment-là. Donc, il m'a donné l'orange. Je vous rassure que c'est beau.
Oui. Non, mais Dale.
Avec Dale. Oui, pardon. Oui. Avec Dale, j'en ai parlé un peu, mais pas à ce moment-là. La beauté de ce genre de métaphore, j'y avais dit oui que j'avais parlé avec un Belge. Mm-hmm. Mais tu sais, on n'avait pas élaboré ce qu'on fait maintenant.
Oui.
Toute cette conversation-là est venue beaucoup plus tard, dans plusieurs mois après notre retour de Compostelle, quand j'avais commencé à connecter les points et que c'est devenu clair, tu sais. Puis Dale a compris mon point puis la métaphore, tu sais.
Oui.
Mais sur le coup, c'est comme j'étais juste content d'être là, puis on s'est retrouvés, on a été dîner où est-ce qu'on était. Et tout,
Alors, vous avez marché, et donc c'est à ce moment-là, une journée ou deux plus tard, que vous aviez quelques ampoules au pied, c'est ça? Oui.
Là, le fun commence. Écoute, après 2 ou 3 jours, là, je commence à réaliser comme j'ai mal à une orteille, j'ai mal dans l'autre pied. Là, j'investigue un peu, tu sais. Puis après 2 ou 3 jours, après une semaine, j'avais 7 ampoules en tout. Plusieurs s'entrecoupaient à travailler les deux. Fait que j'avais une douleur, tu sais. Puis Dale l'a remarqué évidemment, tu sais, t'es-tu correct? Puis ça, c'était plus une question d'énergie, c'était une question, il y a une douleur réelle.
C'est physique, là, quand même.
C'est physique.
C'est ça.
Toute la première semaine, ça a été ça. Ça a été vraiment ce genre de douleur-là après une semaine. C'est comme ça, ça a été un autre défi particulièrement intéressant. Ben, intéressant. C'est facile à dire maintenant, là, 20 ans plus tard.
Mm-hmm.
Mais je n'étais pas mentalement prêt à ce genre de douleur-là. Parce que, comme on est, ce que j'avais lu, s'il y a des ampoules, c'est correct. Il fait juste prendre 2-3 jours de repos.
Mm-hmm.
Mais sur Compostelle, tu ne peux pas vraiment.
Surtout quand vous avez l'horaire.
Exactement.
Et tout, là.
Ouais. Et il vous encourage à continuer parce qu'il y a d'autres pèlerins qui arrivent c'est la ça. Journée d'après. Tu ne peux pas vraiment rester là. Donc, j'ai commencé à y aller. J'ai commencé à continuer, mais à trouver des façons d'ignorer la douleur. Il y avait des pharmacies, j'avais trouvé un peu des médicaments et tout, mais il n'y a pas de façon simple. T'sais.
Mm-hmm.
Fait que finalement, à un moment donné, ils ont fini par guérir après une ou deux semaines. Ben, guérir, c'est un grand mot. Mais j'ai commencé à être OK avec ce mm-hmm. niveau de douleur-là qui était moins intense. Puis qui me bloquait pas à continuer. Mais ça a vraiment joué dans les deux premières semaines, c'est clair. Là.
Oui. Et c'est à ce moment-là que Dale est plus ou moins parti tout seul?
Ben, dit de même, ça sonne étrange, mais t'as raison. Écoute, la version simple de ça, c'est qu'il était avec moi, on marchait proche, puis il voyait comment ça, c'était après à peu près une semaine. Puis il voyait comment chaque pas était une douleur, puis il s'assurait que j'étais correct. T'sais, il s'est bien occupé de moi, tu sais.
Mm-hmm.
Puis à un moment donné, on savait qu'on était à peu près à 2 heures de marche d'une ville qui s'appelle Logroño. Puis c'est moi qui insistais. J'ai dit, Dale, t'as juste à y aller. Je sais Logroño, c'est où. J'ai la map, j'ai la carte. Je vais te retrouver en début de soirée. T'sais. Fait que j'ai insisté pas mal, mais il disait, t'es-tu certain? T'sais, il m'a pas juste abandonné. T'sais. Sauf que ce que j'ai insisté, puis il a fini par dire c'est correct. Il a dit, on va se rejoindre dans 2 heures. Ce qui est arrivé, c'est que presque 3 heures plus tard, moi, ça a été plus long à cause que je marchais lentement. Quand je suis arrivé à Logroño, j'ai trouvé l'auberge de pèlerins qu'on avait convenu. C'était facile à trouver, mais Dale n'était pas là parce que c'était à l'heure du souper. Lui, il avait attendu un bout, j'imagine, puis il était allé chercher à souper. Probablement qu'il était parti 10 minutes, je ne sais pas. T'sais. Ou c'est ce qu'il m'a dit après. L'auberge était pleine. Pas de place, mm-hmm. même pas de place par terre. Fait qu'ils ont dit, par contre, là, ils essayaient d'organiser de quoi? Il y avait beaucoup de monde. Ils ont dit, on a organisé un endroit pour coucher au presbytère à 2 rues d'ici.
Ah bon, oui.
Fait que je suis allé. J'ai couché ce soir-là sur un matelas de gym. Au sol, en dessous d'une table. C'était correct. J'ai dormi comme un bébé quand même. En me disant, je vais voir Dale tantôt, on va se rattraper demain matin, pas de problème.
Mm-hmm.
Ce qui est arrivé, c'est que le lendemain matin, on n'avait pas une heure précise qu'on se retrouvait. Fait que tous les deux, on a eu le même réflexe. On a dit, on va y aller, on sait qu'on doit continuer, puis on sait exactement c'est où on va. Donc, on s'est juste pas recroisés en se disant, on va se voir ce soir. Et le soir d'après, fait qu'on est 2 jours plus tard, là, on se connectait par courriel. Il y avait des cafés Internet à quelques endroits. On n'avait pas nos téléphones cellulaires. C'est avant tout ça. Et on allait dans des cafés Internet, envoyer un courriel. Ah, je suis rendu à telle place. Ah, je te vois peut-être demain. Puis à un moment donné, on réalise qu'il est comme 2 jours devant moi. Tu sais.
Mm-hmm.
Fait qu'on a dit, mais regarde, je vais te voir à Santiago.
À l'arrivée.
Ça revient à ça. Mm-hmm. Fait qu'on a tous les deux fait la première semaine ensemble. Puis les 5 semaines essentiellement qui ont suivi, séparés, mais en trouvant chacun des amis et d'autres sources.
Mm-hmm.
Puis on s'est retrouvés à Santiago.
Alors, Daniel, nous allons prendre une courte pause et nous allons explorer votre apprentissage de Compostelle en 3 étapes. Nous sommes de retour avec Daniel. Alors, Daniel, le chemin, c'est une espèce d'apprentissage en 3 étapes, telles qu'on le décrivait. Il y a d'abord l'étape ou le stade corporel. Expliquez-nous.
C'est comme ça que j'ai commencé à le voir. C'est une belle métaphore dans tout ce qu'on fait. La partie corporelle, c'est essentiellement, ça donne rien d'essayer de régler tous nos problèmes. C'est la pyramide de Maslow. T'sais, ça ne donne rien de régler nos problèmes d'évolution personnelle et de carrière. Dans le cas de Compostelle, c'est directement ça. Commençons par physiquement être capable, donc corporel, est-ce que je suis capable de marcher? Et comment ça s'est traduit pour moi? J'étais chargé de projet à ce moment-là, sur plusieurs différents projets dans ma carrière. Et dès le premier jour, j'ai réalisé que je commençais à gérer ma marche comme un projet, incluant communication. Fait que je demandais des statuts. Comment vont les pieds? Comment va l'eau? C'est quoi le statut de la chaleur? C'est quoi le statut de... Fait que je gérais tout ça physiquement comme un projet.
Mm-hmm.
Et toute la première semaine en particulier avec les ampoules et tout ce qui s'est passé, c'était comme un mal nécessaire dans un sens que il fallait au moins passer cette barrière-là pour dire, regarde, il faut que je sois capable de gérer chaleur, eau et pied et tout ça. Tant que j'ai pas réglé ces problèmes-là ou ces risques-là, ça, c'est dur de commencer à penser à mes choix de carrière. T'sais. Si j'ai rien à manger, ça me donne rien d'essayer de penser sur mes choix de vie. Là,
oui.
C'est une métaphore, mais c'est littéralement ça.
C'est ça, oui.
La première semaine, c'était beaucoup ça. Fait que ça a été moins dans ma tête mentale. C'était vraiment...
Dans les pieds.
c'était l'autre bout.
C'est ça, oui.
Mais tout l'aspect élévation, oui. Tout l'aspect, écoute, coucher, dormir, gestion de l'eau, gestion de la bouffe, gestion de l'argent. Pas beaucoup de besoins d'argent, mais il faut penser à tout ce qui est littéralement physique.
Donc, ce sont les besoins primaires d'abord, là, c'est ça.
C'est vraiment ça.
Oui. Et ensuite, donc, le mental.
Oui. Après une semaine, comme je décrivais, que j'avais fait la paix avec mes ampoules, qui étaient encore là, mais j'avais un rythme correct. Donc, c'était moins un besoin constant. Ce que ça a généré, sans essayer, c'est que j'étais soudainement en train de penser à des choses un peu plus larges à moi, mentalement. Est-ce que ça va bien? Est-ce que je suis dans la bonne zone? Est-ce que je suis motivé? Je pensais à mes problèmes personnels, puis j'avais pas de gros problèmes. Mais je pensais à ma carrière. Je commençais à régler des problèmes, entre guillemets, je suis informaticien, fait que je pensais à du code, je pensais à de l'informatique, je pensais à des trucs. Là, je commençais à régler plein de choses qui me chicotaient depuis longtemps, professionnel et personnel. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai une façon étrange que j'ai appris à dire, c'est que sur Compostelle, lorsque j'étais seul par bout, j'ai mis fin à des amitiés qui m'apportaient rien. J'étais rendu dans un état où j'évaluais qu'est-ce que j'ai. Je voyais mon mariage, je suis heureux là, j'ai besoin de ça. Je commençais à revoir mes choix de vie et prendre des décisions sur les prochaines années devant moi. Tu sais. Genre de choses que c'est dur à faire quand tu fais juste quand tu es assis dans le métro, donc j'ai 3 minutes pour y penser. C'est quand tu peux pas. Là, tu sais. Mais là, j'étais ailleurs. C'était mental, puis c'est correct. J'ai comme réglé plein de choses, du positif. Pas vraiment négatif, en fait. C'est tout positif. Mais j'ai été dans une zone où j'étais non seulement capable de le faire, mais où ce que j'étais prêt à le faire. C'était vraiment intéressant. Ça a duré comme 3 ou 4 semaines. Mettons un bon 3 semaines. Un élément qui a aidé, il y a un aspect physique qui le soutient, là, mais après les montagnes que je mentionnais dans la première semaine, il y a le plateau, tout un plateau pendant plus qu'une semaine. Essentiellement, chaque minute de la marche est copié-collé. C'était la même chose.
Ouais, c'est ça, oui.
Et là, il n'y avait plus de défi d'élévation ni rien. Fait que là, c'était vraiment un bout, là, plusieurs jours. J'ai pris des photos que chaque photo à toutes les 2 heures est essentiellement identique, mais le soleil était différent d'endroit. Mais ça m'a permis justement de ne pas avoir à penser au physique, puis j'étais dans une zone où je réglais tout ça.
C'est ça, oui. Et puis est venu le côté ou la dimension spirituelle.
Oui. Ça, c'est particulier, parce que j'ai pas de religion à la base. J'ai été élevé catholique au Québec, mais j'avais pas une mission religieuse de faire Compostelle, même si c'est une des raisons principales de faire le pèlerinage. Mais j'ai réalisé que c'était Compostelle. Le moment où c'est venu clair pour moi, c'est à peu près une semaine avant la fin. Il y a un endroit qui s'appelle la Croix de Fer. Crux de Ferro, je crois, en espagnol. Il y a une tradition avec la Croix de Fer, c'est que tu es supposé amener une petite roche de chez toi, tu sais, elle rentre facilement dans ta main, là. Tu la mets. Et à la Croix de Fer, tu la déposes là. Mais comme il y a 100 000 personnes qui font la marche de Compostelle par année, à peu près, c'est un monticule important. C'est une montagne.
Une montagne.
Presque une mini-montagne de roche.
Une mini-montagne,
oui. Et c'est une croix, il y a un aspect religieux. Pour moi, c'était pas tellement ça. Mais l'importance de ça, pour moi, c'était incroyable. Je l'ai pas vu venir. Je ne savais pas la tradition. J'avais pas entendu parler de ça. Quelqu'un me dit « Ah, t'as-tu ta roche? » C'est quoi? Là, ils m'ont expliqué. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est fou. Là, je suis allé à quelques pas de là. J'ai pris une petite roche qui était là. J'ai dit « Ça va être ça, ma roche. » Puis je voyais la croix. Là, elle n'était pas si loin que ça, rendu là. J'arrive au monticule. Puis je mets ma roche. Ma nouvelle roche. Et ce moment-là, ce que ça a fait, c'est fou, là. C'était hyper émotionnel parce que j'ai seulement pensé instantanément, ma roche est assise sur un monticule. tout ce que j'ai fait dans ma vie est assis sur ce que d'autres ont fait avant moi, ce que mes parents ont fait pour me permettre d'être là, ce que leurs parents ont fait. C'est comme on est assis sur tout
les
ce qui s'est passé, sur
les épaules des autres. Exactement. Avant nous.
Et en plus, je me suis dit, ma roche va soutenir les prochaines roches. Dans un an, dans 10 ans, il y a d'autres roches qui vont être par-dessus. Puis ils vont être contents que ma roche va faire partie de ceux qui les soutiennent. Mmh. Et la métaphore, c'est ce que tout ce que je fais dans la vie aide quelqu'un d'autre. Donc d'autres vont s'asseoir, vont debout sur mes épaules. Mmh. Et ce moment-là, c'est pas physique, c'est même pas mental, c'est spirituel pour moi dans le sens de c'est important ce que je fais. C'est beau, les projets, c'est le fun, c'est beau la vie. Comme j'ai comme vu ma place dans le grand schéma de mon existence, c'est comme spirituel dans le sens comme je me vois dans un tout là, tu sais.
Oui. Ça vous a ému?
Ouais. Ah, j'avais les larmes aux yeux.
Ah oui.
Juste d'en parler,
ça revient.
J'ai le chair de poule. Et une chose que j'ai pris plusieurs photos, puis la photo la plus importante que j'ai prise, c'est il y avait une fille de la ville de Québec qui faisait la Compostelle avec moi, Karina. Et on avait marché, moi et d'autres, on était un groupe ensemble. Et ce matin-là, Karina était sur le monticule, elle avait la main sur la croix, tu sais. Puis dans mon moment émotionnel, j'avais pris une photo de la croix. Ça donnait que Karina était là.
Ouais.
Elle avait la main. Écoute, cette photo-là, ma mère fait de la peinture, elle commençait à faire de la peinture à ce moment-là. Elle refait la peinture de la photo. Et cette peinture-là est sur mon mur de bureau à la maison. Fait que je la vois tous les jours. Et ça me rappelle à tous les matins, pas juste à cause de Karina, mais le monticule, et ça me rappelle comme ce que tu fais est important.
Mm-hmm.
Ce que tu fais dépend de ce que d'autres ont fait. C'est comme ça te positionne dans un moment tellement... tellement différent.
Oui.
Et ça me revient tous les jours. T'sais.
J'en ai la chair de poule aussi.
c'est fou. Ça fait 20 ans, puis j'en rêve encore à cause de ce genre de moment-là. Puis j'ai adoré la finale à Santiago, la cathédrale, c'était émotionnel. Mais ce moment-là, ça a comme déclenché quelque chose qui était comme... Puis c'était pas juste moi, on était 6 ou 7 personnes, je pense, au monticule ce matin-là, puis... Plusieurs sont en émotion parce que c'est comme. C'est là que tu réalises quand ça fait. Rendu là, ça fait au moins 600 km que tu marches, dépendamment de où tu es parti. Il y en a plusieurs chemins.
Oui.
Mais pour tout le monde, ça devient comme. C'est pour ça que je fais ça.
Oui.
C'est pour ça que je suis ici. Tu sais.
Oui. Des beaux moments.
Ah oui.
Au jour le jour, sur le chemin de Compostelle, il y a sûrement plusieurs anecdotes. Et j'imagine que vous vous êtes perdu une fois ou deux. À cause de votre handicap visuel, non?
C'est sûr. Il y a des belles histoires là-dessus. Mais ça me donne une fierté de m'être perdu, spécifiquement d'avoir détecté que je m'étais perdu. Et donc, spécifiquement, c'est une fois, genre, après une semaine peut-être, je pense que Dale était encore pas loin, mais comme je disais, on n'était pas épaule à épaule, tu sais. Puis à un moment donné, je marche, puis la façon que Compostelle est quand même bien arrangée, c'est qu'il y a des signaux, il y a comme un coquillage, où il y a comme un symbole. Compostelle, clair avec une flèche, tu tournes ici pour Compostelle. Fait que tu peux pas vraiment te perdre.
Oui.
À moi de le prouver. Si tu vois pas le coquillage, c'est si ça. Tu vois pas la pierre,
oui.
C'en est une que j'avais manquée à un moment donné, puis c'est arrivé 3 ou 4 fois.
Oui.
Une que j'ai fait, j'ai marché pendant peut-être 1 heure dans la mauvaise direction. Mais ça montait un peu en montagne, puis plus que je marchais, plus qu'il y avait de l'herbe élevée, de plus en plus élevée.
Oui.
Puis il y a quelque chose dans ma tête qui fait comme, il y a 100 000 personnes qui font à la route de Compostelle. C'est clair qu'il n'y a pas 100 000 personnes qui marchent sur cette herbe ici, là, tout
c'est
le temps.
C'est ça, oui.
Fait qu'il y a quelque chose qui dit, reviens donc en arrière juste au cas. Puis je l'ai fait, j'ai retrouvé mon chemin exact. Ça n'a pas été long. Après, ben, j'avais une heure de revenir, fait que j'ai perdu 2 heures.
Oui.
Mais j'ai vu le coquillage. Alors, okay, il aurait fallu que je tourne là. Voilà. C'est arrivé peut-être 3 fois sur tout Compostelle.
Ben, c'est pas si mal.
Ça aurait pu être pire. J'avais rencontré un pèlerin roumain, je crois, qui avait fait ça, qui m'avait dit qu'il s'était perdu. Il avait marché dans la mauvaise direction pendant 2 jours. Il n'y avait pas de problème de vision. Mais lui, il était dans sa bulle, puis il était.
Oui. Oui, oui.
Il n'y avait pas d'air stressé. Fait que ça aurait pu être pire.
Bon. Alors, au bout de tout ça, les retrouvailles avec Dale à la fin du voyage.
Ce qui est drôle, c'est que Dale est arrivé 2 jours avant moi. Lui, il avait marché beaucoup avec un jeune Allemand, Matthias. Puis, ils sont encore connectés aujourd'hui. Matthias a un doctorat. C'est comme si j'ai rencontré lui. Mm-hmm. Quand je suis arrivé à Compostelle, j'ai vu la cathédrale. Ça a été le moment, tu sais, j'ai réussi, j'ai démontré ce que je voulais démontrer, etc. Puis Dale, je l'ai vu 2 ou 3 heures après, il était pas loin. Ce qu'il me disait, c'est que lui, depuis 2 jours, il était avec Matthias, puis il regardait les pèlerins arriver. Puis il voyait leur émotion, puis ce que ça voulait dire pour eux. Fait que lui, c'était comme un people watching, tu sais. Puis lui, il a beaucoup aimé la ville de Santiago et tout. Fait que ça a été le fun de se revoir, comment ça va. Puis on commence à raconter. Depuis ce temps-là, on raconte Compostelle parce qu'on l'a vécu assez différemment. Moi, la Croix de Fer, c'était une super journée. Lui, c'était bien, mais il pleuvait. Puis c'était fait qu'il n'a pas eu la même expérience. Il a juste dit, c'était le fun. Mm-hmm. Alors que moi, c'était émotionnel et tout. Oui. Mais lui, il a eu ses propres moments émotionnels. Oui. Fait qu'on en parlait à ce moment-là. On est allé voir d'autres choses ensemble. Après, on a connecté là d'une façon que je ne me serais pas attendu. Mm-hmm. On se compare nos histoires. Puis c'est le fun. Ça crée ça. T'sais.
Oui, oui, oui. C'est de beaux moments, émouvants.
Exact.
À deux, comme ça, vous avez réussi votre chemin.
Oui.
Oui. Formidable. Alors, parlons du retour également, parce que la vie change, hein? Ou ne change pas, selon le cas.
C'est drôle, parce que c'est pas comme si tout avait complètement changé. J'étais la même personne, la même façon de voir les choses. J'avais perdu 30 livres.
Mm.
Donc, quand je suis revenu à la maison, ma femme m'a reconnu, mais c'est comme...
Mais c'est qui, ça?
J'étais zen... puis j'étais dans un état d'esprit tellement, je veux pas dire au ralenti, mais j'étais dans un mode où j'étais comme, c'est correct, le stress, on va identifier les éléments de stress, puis on va les gérer. Fait qu'il y a un peu de changement qui s'est passé sur ma façon de voir les choses, ma façon de réagir. Mais tu sais, j'ai jamais été quelqu'un de bien stressé, mais je suis devenu encore moins à ce moment-là où j'étais plus... je veux pas dire sage, ça semble arrogant de dire je suis rendu sage, mais j'ai comme pris de la maturité, je veux dire. À 32 ans, j'ai pris une maturité qui m'aurait pris quelques années à développer sur ces aspects-là. Tu sais. Mm-hmm.
Alors, devant les obstacles, maintenant, il n'y a rien qui va vous arrêter, là.
Je crois que c'est ça.
C'est ça, oui.
Et en fait, l'élément qui a changé, puis c'est un bon point, parce que l'élément qui a changé principal, c'est... Il n'y a pas rien qui va m'arrêter. Ou en fait, ce qui va m'arrêter, c'est ce que je vais choisir de laisser m'arrêter. Puis c'est correct. Des fois c'est bon de ne pas y aller à l'aveugle, faire une blague.
Oui.
De ne pas y aller de même, mais juste dire, regarde, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que ça va me rendre dans un endroit où je veux être, physiquement, mentalement, spirituellement? Ça peut être ça aussi, tu sais.
Oui.
Ça me donne une espèce d'analyse. Mais ce qui est le fun, c'est que je suis en contrôle.
Oui.
J'aurais pu le mur de briques. Le mur de briques est toujours là.
Mm-hmm.
Sauf que je sais que c'est juste un mur. Fait que je prends le recul, je dis, mais qu'est-ce que je veux vraiment?
Oui.
Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va m'arrêter? Puis en réalité, non. Je te dis ça, je pourrais jamais devenir un pilote de course, un pilote d'avion, je pourrais jamais être un chirurgien. Mm-hmm. C'est des bloquants, mais en même temps, est-ce que je veux vraiment ça? Non.
Il y a ça.
Je peux pas être un astronaute. Oh, non.
C'est ça, c'est ça. Oui. On devient réaliste quand même. Là.
Ça, il y a beaucoup de ça. C'est la maturité qui est exactement ça. Dans le fond, regarde, c'est quoi tu veux. T'sais.
Daniel, en terminant, est-ce que vous auriez un conseil pour des personnes qui ont un handicap particulier et qui hésitent à s'aventurer justement sur le chemin de Compostelle ou tout autre projet dans la vie?
Ou tout autre, parce que dans le fond, le conseil qui est vraiment central pour moi, c'est de se faire confiance, de trouver les ressources, des outils, mais faire confiance que c'est correct. J'applique une suggestion de ma mère qui a toujours été de dire « avec une langue, on sera à Paris », et fais confiance tu vas être capable de demander de l'aide aux gens. Tu vas être capable de poser des questions.
Mm-hmm.
Dans le cas de Compostelle, il y a une couple de fois que j'allais dans la mauvaise direction, puis il y a des Espagnols qui travaillaient là, qui vivent là, puis qui me disaient « c'est par là
». Ah oui, oui, oui.
Ils voyaient que je ne travaillais pas dans la bonne direction. «
Oui,
par qui ?» Puis l'idée, c'est de faire confiance, se faire confiance au fait que les gens font, ont tellement une bonne volonté, ils vont vouloir vous aider.
Oui.
C'est ça, avec l'handicap, ça reste vrai. Les gens vont être heureux de vous aider.
Mm-hmm.
Ils vont bien se sentir de vous avoir aidé. Juste traverser la rue, c'est m'est arrivé hier. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Les gens vont vouloir vous aider.
Daniel, est-ce qu'il y a d'autres grands projets?
J'aimerais ça faire d'autres grandes marches.
Ah oui?
Compostelle fait partie des peut-être. J'aimerais ça retourner à Compostelle.
Mm-hmm.
Je me le promets, mais j'en ai vu d'autres endroits que j'aimerais marcher. Mm-hmm. On a les limites qu'on a. J'aimerais ça marcher avec ma femme, mais elle a des problèmes de genoux, donc c'est pas vraiment une option.
Oui.
Mais en même temps, on a marché 20 000 pas ensemble la semaine passée. On était en Espagne, justement. J'ai mon retour en Espagne après 20 ans, mais là, c'était pas du tout pour une marche. Mais il y a une journée, on a marché 20 000 pas ensemble. On est capable de faire. Hier, on a marché 10 000 pas.
Ah oui,
l'idée, on s'espace, on prend une pause, on le gère comme ça.
Oui.
Fait que mes projets, mais j'aimerais quand même faire des longues marches. Il y a des pèlerinages, même au Québec. Il y en a un qui arrive à l'Oratoire Saint-Joseph.
Oui.
Il y en a d'autres en Écosse, il y en a plein. Là. Fait que j'aimerais ça en faire d'autres.
Alors, Daniel, merci beaucoup de votre témoignage aujourd'hui et on vous souhaite bon voyage.
Comme on dit sur la route de Compostelle, buen camino.
Si.
Merci beaucoup, Denis.
À bientôt. C'est maintenant le temps de vous présenter la dernière chronique Le corps en marche de la saison en compagnie de Michel Cousinat-Baudet, ostéopathe et entraîneur spécialisé en posture. Bonjour, Michel.
Bonjour, Denis.
Vous nous proposez quelque chose de légèrement déstabilisant, je dirais. Vous voulez que l'on se perde?
Oui, mais volontairement.
Ah bon?
En fait, l'expérience que je vous propose aujourd'hui n'est pas de se perdre comme tel, mais il est possible que vous vous perdiez dans le processus et c'est OK.
Vous m'intriguez, Michel. Que proposez-vous exactement?
Quelque chose de très simple. Sortir, marcher sans votre GPS.
Ah, là, je comprends maintenant. Cela peut effectivement être déstabilisant pour plusieurs personnes, par contre.
Je sais. Aujourd'hui, tenter de se rendre quelque part sans le GPS, c'est presque provocateur.
Vous demandez aux gens de renoncer à leur petit point bleu rassurant qui leur dit exactement où tourner à gauche ou à droite.
Exactement. Mais pas de façon radicale. On ne parle pas de marcher en forêt, là, sans carte ni eau. Je vous propose des déplacements en ville, là où il y a des repères, des plans affichés au coin des rues, dans les métros, des indications un peu partout. Et surtout, des gens.
Des gens?
Oui. Comme avant, on demandait son chemin à un passant. Ça peut sembler banal, mais ça ne l'est pas. On recrée un contact humain. Ça nous oblige à être attentifs, à formuler une question clairement, à s'adresser à un inconnu avec respect.
Donc, ce n'est pas juste une question d'orientation.
Non, c'est aussi une façon de réapprendre à être en relation. Je vous donne un exemple. Avec l'arrivée des téléphones intelligents, on appelle directement la personne que l'on veut joindre. Même que la plupart du temps, on ne l'appelle même plus, on lui écrit. On a perdu quelque chose d'essentiel en chemin.
Et à quoi faites-vous référence?
Une forme de spontanéité dans le contact et aussi une certaine compétence sociale. Donc, avant, on appelait chez quelqu'un. On ne savait jamais qui allait répondre. Il fallait se présenter, utiliser des formules de politesse, demander à parler à notre ami. C'était des petites choses, mais ça développait une aisance, un savoir-faire, une capacité à entrer en relation avec un inconnu.
Et je dirais une certaine dimension des relations humaines?
Exactement. Et aujourd'hui, ce genre de micro-expérience disparaît. Personnellement, je trouve qu'il y a plusieurs jeunes qui n'ont pas vraiment eu l'occasion de développer ces compétences-là, ou en tout cas pas de la même façon.
Finalement, ce que vous dites, c'est que se perdre un peu, ça nous reconnecte.
Oui. Se perdre, ce n'est pas seulement chercher son chemin. C'est aussi retrouver une manière d'être au monde, plus attentive, plus humaine.
Qu'est-ce que ça change concrètement?
Plus qu'on pense. D'abord, ça transforme la préparation. Donc, avec le GPS, il n'y en a presque plus. On entre une adresse, on part et on délègue complètement notre attention. Sans GPS, on fait l'inverse. On regarde le trajet avant de partir, on essaie de le comprendre, de se le représenter.
Comme avant.
Justement. On identifie quelques repères. Une grande rue, un parc, une station de métro, un bâtiment connu. Pas tout, juste assez pour se faire une carte mentale. Et ça, ça fait vraiment travailler le cerveau. L'orientation spatiale, la mémoire, l'attention.
On fait travailler nos méninges.
Oui. On s'implique dans le trajet. On devient actif plutôt que simplement guidé.
Vous suggérez de mémoriser tout le trajet?
Non, non. Sinon, ça devient un examen de mémoire. Donc, le but, ce n'est pas de performer, c'est d'être présent.
Et ensuite?
On marche. Et là, il y a un phénomène intéressant. On lève la tête. Quand on suit le GPS, on alterne entre l'écran et le sol. On est dans une exécution. Là, sans le GPS, on est obligé de regarder autour, d'observer, d'analyser.
Donc, on redevient acteur de son déplacement.
Exactement. On observe les noms de rue, les panneaux, les affiches. On remarque des détails.
Par exemple?
Des choses très simples. Une murale que l'on n'avait jamais vue. Une petite ruelle intéressante. Un café que l'on n'avait jamais remarqué, même si on est passé devant des dizaines de fois.
Ben, là, je vous suis. J'arpente souvent Montréal et j'observe bon nombre de passants qui semblent regarder sans vraiment voir.
Oui, oui. Ça me rappelle une prise de conscience que j'ai eue dans la vingtaine. Ma cousine, qui vivait en Alberta, était de passage à Montréal. Je lui faisais visiter la ville et elle s'arrêtait sans cesse. Une façade, une murale, un bâtiment coloré. Elle remarquait des détails que moi, j'avais jamais vus.
Et pourtant, vous connaissiez déjà ces endroits.
Ben justement, j'étais passée par là très souvent, sans rien voir. Puis j'ai compris. Elle marchait comme une touriste, la tête relevée, curieuse, disponible, un peu émerveillée. Moi, au quotidien, je marchais les yeux au sol, absorbée dans mes pensées, avec un seul objectif, arriver le plus tôt possible.
Alors, deux façons complètement différentes d'habiter le même trajet.
Voilà. Et depuis, je me suis donné un petit rituel. Donc, je m'offre des petits après-midi touristes. Je choisis un quartier et je m'y promène comme si c'était la première fois. Je ralentis, je regarde, je me laisse surprendre.
J'aime bien votre expression « après-midi touriste ». Et ça fonctionne?
Oui. Bien, pour moi, oui, c'est un état d'esprit. Hein. Ça demande un peu d'imagination, mais on embarque vite dans le jeu. On devient réellement plus attentif, plus ouvert. C'est une façon simple de voyager sans quitter la ville et sans rien dépenser.
Ah, surtout. Et ça nous ramène à cette idée de regarder sans voir. Parce qu'au fond, avec le GPS, on regarde, mais on n'observe pas vraiment.
Exactement. Le GPS nous amène du point A au point B, et souvent par le trajet le plus efficace, mais pas nécessairement le plus agréable. Donc, on suit une ligne, on obéit à des indications, et sans s'en rendre compte, on devient un peu plus passif dans notre déplacement. L'expérience s'aplatit, elle devient presque interchangeable d'un trajet à l'autre.
Et comme si tous les chemins finissaient par se ressembler, dans le fond.
Oui. Alors que sans le GPS, chaque trajet devient unique. Même si on fait le même chemin deux fois.
Mais pour certains, ça peut être un peu stressant, la peur de se tromper.
Oui, bien, au début, certainement. Et c'est intéressant parce que ça révèle à quel point on est devenu dépendant de la technologie.
Ben, en fait, on a perdu une certaine compétence, là.
Oui, en partie. L'orientation spatiale, la capacité à lire un environnement, à repérer des indices, à se situer. Donc, ce sont des habiletés qui s'entretiennent. Ce sont des choses qu'on utilisait beaucoup plus avant.
Et qu'on a déléguées à notre téléphone.
Voilà. On les a mises en veille, au profit d'un outil qui, oui, est très efficace, mais qui ne nous implique pas de la même manière. Donc, en déléguant, on perd aussi une forme de confiance en soi. On doute plus vite de notre propre jugement, de notre capacité à trouver des solutions.
Donc, marcher sans GPS, ça serait aussi une façon de retrouver cette confiance.
Oui. On prend une décision. Je pense que c'est par là. Parfois, on a raison. Parfois, on se trompe.
Et là, c'est le drame.
Mais non, justement. Il n'y a pas de drame. On s'ajuste. On revient un peu plus en arrière. On trouve un autre chemin.
Alors, l'erreur est souvent une bonne chose.
Elle devient même utile, parce qu'elle nous oblige à réfléchir, à s'adapter. Quand on apprend un lieu par essai et erreur, on l'intègre beaucoup mieux. Donc, la prochaine fois, on se souvient, « Ah non, cette ruelle-là, elle ne débouche pas. » Et au-delà de l'orientation, il y a quelque chose d'intéressant. Dans une société où tout doit être rapide, optimal, bien, on réalise que c'est pas très grave si on trouve pas la façon la plus efficace de se rendre à quelque part.
Et puis, ça enlève un peu de pression.
Oui. On sort de la logique de la performance constante.
Et quand on se perd, qu'on prend le temps de s'orienter, on ralentit.
Oui. Et c'est probablement l'un des plus grands bénéfices. Quand on suit un GPS, on est dans l'efficacité. On veut arriver le plus vite possible, sans détour.
Objectif, destination.
Et sans GPS, le trajet reprend de la valeur. On est moins pressé, beaucoup plus attentif à ce qui nous entoure. On est dans le moment présent.
Et à plusieurs, c'est plus amusant, j'imagine.
Oui, et souvent moins intimidant. À deux, par exemple, pour des emplettes au centre-ville, on peut décider de se déplacer d'un magasin à l'autre sans sortir son téléphone. On met en commun nos repères. Je pense que c'est vers l'est. Ah, il me semble qu'on est passé par telle rue tantôt. On a deux cartes mentales, deux expériences. Et ça devient déjà plus facile et plus interactif. On peut même en faire un jeu. Donc, avec les enfants, par exemple. À chaque intersection, on décide. Gauche, droite, ou même chacun peut choisir à son tour. On peut même se perdre volontairement, puis essayer de retrouver son chemin.
Et ça peut leur être bénéfique.
Oui, 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 pour plusieurs raisons. Ça développe leur sens de l'orientation, leur mémoire, leur capacité à observer et à prendre des décisions. Mais surtout, ça leur apprend à tolérer l'incertitude, à essayer, à se tromper et à s'ajuster sans stress. Ce sont des compétences utiles bien au-delà de la marche.
Bien, ça change complètement la dynamique d'une marche.
Oui, au lieu d'être un déplacement, ça devient une activité en soi.
J'y vois aussi un autre aspect, comment dirais-je, plus corporel.
Ah oui?
Quand on regarde autour, notre corps n'est pas dans la même posture.
C'est vrai, on est plus redressé. Notre regard se porte à l'horizon, notre respiration est différente.
Et moins de tension dans le cou.
Oui, moins de tête penchée vers le bas.
Oui.
Et ça a un réel impact, là, surtout si on marche souvent.
Donc, un bienfait pour le corps.
Absolument. Et ce n'est pas le point de départ, c'est un bénéfice collatéral.
Alors, Michel, si j'ai bien compris, vous ne dites pas « arrêtez le GPS », vous dites « utilisez le moins ».
Oui, oui. L'idée, ce n'est pas de rejeter complètement la technologie. Elle est utile, très utile.
Mais de ne pas lui laisser toute la place.
Exactement. On peut choisir quand on s'en sert. Donc, par exemple, quand on va à un rendez-vous important ou on est déjà dans une situation un peu stressante, si on est pressé par le temps, c'est là que le GPS devient pertinent, pour éviter de s'ajouter une couche de pression inutile.
Bien, en fait, on l'utilise mieux.
Voilà. Je vous encourage à ne pas l'utiliser systématiquement. L'idée, ce n'est pas de s'en priver, mais de l'utiliser avec intention.
Un choix conscient plutôt qu'un réflexe.
Exactement. Et vous gardez toujours la possibilité d'y recourir si nécessaire. Mais ce n'est plus votre point de départ. Considérez-le comme un filet de sécurité plutôt qu'un pilote automatique.
Alors, la question que l'on se pose toujours, combien de temps ça prend pour s'habituer?
Une ou deux sorties, c'est tout. Au début, c'est un peu inconfortable. Puis, ça devient presque agréable.
Addictif, peut-être?
Je dirais satisfaisant. Rapidement, on a l'impression d'être plus présent, plus engagé.
Et peut-être un peu plus libre?
Oui, parce qu'on n'est plus en train d'obéir à une voie ou à une ligne. On choisit.
Bon, dernière question. Si quelqu'un veut essayer dès aujourd'hui, vous lui dites quoi?
Très simple. Choisissez une destination pas trop loin. Jetez un coup d'œil au trajet, deux, trois repères et partez sans GPS.
Et accepter de vous perdre un peu en cours de route.
Oui. Et c'est là que ça devient intéressant. Utilisez les cartes disponibles en ville, dans les bouches de métro, sur les panneaux. Osez demander votre chemin à un passant. Ou entrer dans un magasin, parler au vendeur. Chaque petit détour devient une occasion d'apprendre et de découvrir.
Alors Michel, je pense qu'on vient de donner envie à quelques personnes de délaisser leur appareil, de lever les yeux et de voir la ville sous un autre visage.
C'est déjà un bon début. Souvenez-vous, se perdre volontairement, même un peu, transforme une simple marche en expérience. On retrouve l'attention, la curiosité, le contact humain et une meilleure connexion avec notre environnement. Tout cela sans technologie, simplement en levant les yeux et en osant s'aventurer. Tentez l'expérience dès aujourd'hui, votre corps vous en remerciera.
Encore une fois, Michel, merci beaucoup pour toutes ces belles chroniques tout au long de la saison et au grand plaisir de vous revoir la saison prochaine.
C'est un plaisir, à la saison prochaine.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier de leur participation Daniel Gélina et Michel Cousina-Baudet. Merci également à Jérôme Costigan, le mélomane à la technique. Et merci à vous tous et toutes d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Je vous laisse cette semaine avec une pensée de Saint-Exupéry. Les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine!